Merci d'être là. Nous allons aujourd'hui regarder le béatitude qui parle effectivement de ceux qui font la paix. Et Jésus a dit dans les béatitudes, donc heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés les fils ou les enfants de Dieu. Être père, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et ce passage que nous avons dit que ceux qui procurent la paix, ils peuvent appeler Dieu leur Père. Je suis honoré d'avoir trois enfants. Il y en a qui, comme Sophie, qui en a plus, et puis il y a d'autres qui essaient de rattraper, comme Justin et Martina. Mais cette relation que nous avons avec les enfants est importante. Je me souviens des années en arrière, quand Justin et Jordan étaient petits, je rentrais du travail et ils disaient quelque chose, oh, c'est toi, et ils continuaient à jouer avec le jouet. Et Kathleen, malgré toutes nos difficultés avec elle, qui étaient assez importantes, vous savez pourquoi nous avons trois enfants, c'est parce que Kathleen était la troisième. Et on n'a pas continué, mais malgré tout cela, quand je rentrais à la maison, elle disait, oh, c'est toi, c'est mon papa, c'est mon papa. Elle courait toujours envers moi pour m'embrasser. Et cette relation de père, de mère, de relation que nous pouvons avoir avec les enfants est quand même quelque chose de privilégié. Et ceux qui, parmi nous qui avons eu cette occasion, nous sommes bénis de Dieu. Et c'est aussi une bénédiction dans l'Église que nous pouvons partager cela. Parce que si vous n'avez pas d'enfants, bon, je vous dis que vous en avez. Il y en a dans cette assemblée qui attendent votre attention, vos prières, votre amour et votre compassion. Qui a Dieu comme Père? Dans notre texte, ce sont ceux qui procurent la paix. C'est Matthieu chapitre 5, le verset 9. Vous savez que dans les Écritures, c'est pas la seule chose qui est demandée. Nous savons que l'apôtre Jean a dit au Jean chapitre 1, le verset 2, 12, en parlant de Jésus, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ça serait bien, puisque j'ai mis ce verset-là, que je vous le montre. Hein. Je suis fort. Attendez. On va voir si ça marche. Voilà. C'est ce texte-là. Okay. Devenir enfant de Dieu. Vous savez que cela dérange un peu les autres. Parce que parfois, dans le monde, même ceux qui n'acceptent pas Dieu, ils disent, mais on est tous enfants de Dieu. Et c'est vrai que nous sommes tous enfants de Dieu dans le sens qu'il nous a créés. Mais la relation d'héritage, la relation du Père qui donne quelque chose, un avenir, c'est pour les enfants. Et dans ce contexte, nous apprenons que ceux qui sont les enfants de Dieu, donc ceux qui ont un avenir avec lui et qui reçoivent un héritage. C'est aussi celui qui aime la justice. Jean, dans une lettre écrite beaucoup plus tard, dit ceci. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Et donc nous apprenons ici deux autres choses qui sont là, qui vont avec la foi. C'est de faire ce qui est juste, de faire ce qui est bon, d'obéir à notre Dieu et aussi d'aimer nos frères. Et pour souligner cela, on peut aller un peu plus loin au 1 Jean chapitre 3, le verset 23, où il dit, et voici le commandement de Jésus, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres. Et c'est celui-ci qui fait de nous que nous devenons des enfants de Dieu. Et vous savez que devenir un enfant de Dieu, dans ce passage que Jésus utilise, il dit « heureux ceux qui procurent la paix ». Vous comprenez combien c'est difficile de procurer ou d'être un faiseur de paix entre deux personnes. Peut-être vous vous êtes inséré dans une situation où il y avait rupture. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez vécu? Vous avez ramassé la haine des deux côtés. Et si ça marche pas, s'il n'y a pas de réconciliation, souvent c'est votre faute. C'est parce que vous n'avez pas fait les bonnes choses, vous n'avez pas dit ce qu'il voulait dire. Mais cette idée de créer la paix entre deux personnes, de faire de deux personnes qui sont des ennemis, de faire qu'ils deviennent quand même des amis ou même des frères, est quelque chose que Dieu fait habituellement. Il appelle les gens à la réconciliation. Et je ne sais pas si vous savez, mais souvent dans les Écritures, en les lisant, en nous lisant Dieu de paix, le Dieu de paix. C'est presque un nom de famille de Dieu. Nous le voyons dans plusieurs textes où on parle comme ceci, que la grâce et la paix vous soient accordées par votre Dieu le Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce vraiment possible d'avoir la paix sur la terre? Je lisais pour cela, hein, qui a écrit, ah, il y a beaucoup de monuments à la paix, cette personne a écrit. Nous en construisons un après chaque guerre. Ou si vous allez à l'ONU, il dit la raison d'être de l'ONU, c'est que les générations suivantes soient libérées de la plaie de la guerre. Et si nous voulons la paix, il faut savoir, il y en a qui la veulent plus que nous. C'est le Dieu de paix. Si nous désirons vivre en réconciliation avec les autres, il y en a un qui veut plus cela, c'est Dieu lui-même. Je cite quelques passages. Je ne crois pas que je les ai mis ici, non. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Le Dieu de paix, le Seigneur de la paix. Vous savez que, comme j'ai dit, toutes ces différentes phrases nous montrent que c'est presque un nom de famille de Dieu. Regardez ce que l'apôtre a écrit aux chrétiens à Colosse. C'est dans Colossiens 1, le verset 19. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, donc Jésus, toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Que Jésus donc est celui qui réconcilie les hommes et qui avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Et Dieu désire tant la paix qu'il demande à son Fils de donner sa propre vie pour établir la paix. Le Fils meurt pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Dieu désire la paix. Vous savez, bon, vous ne le savez pas sans doute, mais aux États-Unis, au 18e siècle, dans l'Ouest, Texas, Montana, Arizona, tous ces endroits comme cela, il y avait un outil qui était appelé un faiseur de paix, un peacemaker. Vous savez ce que c'était? C'était un revolver de 45 calibre. Okay? Et l'idée, c'est que le shérif, qui tirait plus vite que son ombre, évidemment, que faisait-il? Il a instauré la paix dans les différents villages hors la loi pour que la paix existe. Et que fait-il? Dieu, il entre dans notre monde, pas comme un policier, mais il entre comme quelqu'un qui offre son Fils pour donner la paix et la réconciliation. Ce n'est pas à travers une pluie de balles que la paix est instaurée, c'est à travers une croix plantée sur une colline. Bon, qu'est-ce que c'est que la paix? Vous savez que si vous voulez vraiment trouver de la paix à Lausanne, vous pouvez aller à Montois. Il y a le cimetière. Et là, vous pouvez vous recueillir dans la paix. Parce que où il y a les morts, il y a la paix. Il y a absence de tout. Il y a absence de mouvement, absence de relations, il y a absence de guerre. Mais est-ce cela la paix que Dieu veut que nous ayons? Que nous soyons totalement détachés de tout ce qui se passe autour de nous. Bon, vous savez très bien que pour le juif, ils avaient un mot pour la paix. Et quel est le mot pour la paix des juifs? C'est shalom, shalom. Et shalom ne veut pas dire, par exemple, on dit shalom à un autre, donc c'est entre juifs, hein, que cela se dit. J'ai entendu que parfois, si on n'est pas juif et on le dit, il y a des gens qui pensent offensé, mais je ne sais pas si c'est le cas. Mais on dit shalom à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de guerre entre nous deux. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Quand on dit shalom, ça ne veut pas dire oh, qu'il n'y ait pas de guerre. Ça veut dire plutôt qu'il y ait la justice et la bonté entre nous et que vous le receviez de ma part. La paix n'est pas la trêve. Vous savez, c'est pas un moment où on ne tire pas sur les autres ou un moment où on va recharger les fusils pour tirer à la fin de la trêve. C'est vraiment la présence d'harmonie, de bonté. C'est de chercher le bien-être de l'autre et de lui donner cette justice et cette bonté qu'il cherche. Et donc, il y a le procureur de la paix. Et Jésus dit à un monde qui vit dans le conflit, donc habité, okay, par les Romains et les soldats, heureux ceux qui procurent la paix. Dans un monde de guerre de l'époque, de libération des ennemis, il vient un monde qui a un discours de haine envers les ennemis. Dit Jésus? Il dit, heureux celui qui procure la paix. Procure la paix dans les familles, évidemment, procure la paix avec le voisin, mais procure aussi la paix avec ses ennemis. Cette personne cherche la réconciliation avec ceux qui sont autour. Ce n'est pas simplement d'ignorer et de vivre sa vie séparée de tout ce qui se passe, même si nous sommes appelés à vivre des vies paisibles. C'est aussi de chercher ce contact qui rend possible une réconciliation entre les gens. Il va chercher à vivre en paix avec les autres autant que cela dépend de lui, et il va chercher une paix aussi avec Dieu, une harmonie où la volonté de Dieu et la mélodie et la personne décrite par Jésus harmonisent avec cette mélodie. Que Jésus a déjà donné ce que nous devons chanter, et nous entrons dans cela en cherchant la paix. On cherche la paix entre les gens. À tel point que Jésus, dans le sermon sur la montagne, va dire aux Juifs, avant d'offrir sur l'autel une offrande, que doit-on faire? On doit penser non seulement à Dieu, mais aussi à son prochain. Et s'il y a quelqu'un avec lequel on n'est pas réconcilié, donc on doit aller vers cette personne et chercher la paix plutôt que de continuer avec ce sacrifice à Dieu. Nous apprenons cela dans le sermon sur la montagne. Qu'en cherchant Dieu, nous cherchons aussi la réconciliation avec notre prochain. Et cette paix-là n'est pas facile à procurer. Oui, Dieu donne la paix, mais ce n'est pas une paix qui s'arrange avec tout le monde en évitant de parler des choses difficiles. Allez vers quelqu'un avec lequel vous avez un problème et dire, je cherche la paix et la réconciliation avec toi, ce n'est pas quelque chose de facile. Nous avons souvent envie de enterrer le conflit plutôt que de faire face à cela et d'apprendre à gagner l'autre à travers la réconciliation. Ceci se passe à travers un amour profond pour les autres et à travers une vie de prière qui cherche à chercher l'autre. Souvent, quelqu'un est notre ennemi et part. Et au lieu de les poursuivre dans l'amour, nous sommes remplis d'apathie. Okay? C'est-à-dire, on ne cherche pas un contact, mais on dit, bon, si la personne veut vivre comme cela, qu'il vive comme cela. Plutôt de chercher d'aller plus loin dans cette relation et rétablir une relation. Alors, on a déjà dit, bon, heureux les pauvres, okay? On a déjà vu heureux ceux qui pleurent, on a déjà eu heureux les doux, toutes ces différentes choses que nous avons vues. Mais comment est-ce que être un procureur de la paix est quelque chose de bien? Celui qui est un faiseur de paix, comment cela est une bénédiction? Parce que il faut savoir que au premier siècle, les gens y vivent en entendant des messages de rébellion et de guerre. Ils louent les personnes qui sont des anti-romains qui ont un discours anti-romain et qui prêchent une libération radicale des Romains, la défaite des ennemis. Le message, c'est effectivement non seulement la défaite de Rome, mais la destruction de Rome. Et celui qui cherche la paix n'est pas celui qui est le plus admiré de la société. Ce n'est pas celui qui est honoré par les autres. Bon, peut-être après sa mort, oui. Mais souvent, nous remarquons que ceux qui cherchent la réconciliation, pendant leur vie, on ne les honore pas. C'est seulement après qu'on se dit, ah ben, évidemment, c'est quelqu'un qui cherchait le bien. Alors, qu'est-ce qui menace la paix? Bon, à l'époque, c'était les idées politiques, nationalistes, messianiques du peuple. Les héros, à l'époque, étaient les guerriers. C'est aussi, aujourd'hui, c'est l'erreur et les mensonges. Regardons ce que Dieu dit à travers Ésaïe. Il n'y a point de paix, dit l'Éternel, pour les méchants. Et donc, les méchancetés, les mensonges, les injustices que nous pouvons commettre envers les autres, ce sont des choses qui détruisent notre paix, l'erreur et les mensonges. Et puis finalement, il y a la jalousie. Le frère de Jésus a écrit ceci. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par des artisans de paix. Par des artisans de paix. N'aimez-vous pas cette petite phrase, okay, qui est là? Il dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Bon, qui est l'artisan? L'artisan, c'est celui qui se donne à son travail, qui utilise les ressources qu'il a avec amour pour construire quelque chose qui est unique, pour construire quelque chose qui est souvent cher, n'est-ce pas? Quand on parle d'artisan, on parle de cela. Mais c'est quelqu'un qui fait sur mesure des choses pour plaire à ses clients. Et l'artisan de la paix, c'est celui qui est attentif, qui entre dans la vie et qui utilise ce qu'il a, c'est-à-dire la prière, la foi, l'amour et la bonté pour qu'il y ait la réconciliation. Notons bien, c'est la seule phrase que nous avons dans le sermon sur la montagne, disons dans les béatitudes, qui dit que celui qui fait cela sera appelé fils de Dieu. Les purs vont voir Dieu, les pauvres vont hériter le royaume, toutes ces choses, mais celui qui sera appelé fils de Dieu, c'est celui qui procure la paix. Y a-t-il une chose plus belle que de savoir que Dieu nous appelle ses enfants? De savoir qu'en étant ses enfants, nous allons recevoir un héritage. Et ce sont ceux qui procurent la paix qui font cela. Jésus dit plus tard dans le sermon sur la montagne, c'est Matthieu 5, verset 45. Il dit, je crois qu'il se réfère quand même aux béatitudes. Il dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre, n'est-ce pas? Okay. Tel père, tel fils, nous disons. Et pourquoi celui qui procure la paix est appelé un fils, un enfant de Dieu? C'est parce que Dieu, il fait la même chose. Il fait des choses chaque jour, pour ses ennemis, pour leur donner la vie. Il y a un groupe que j'adorais autrefois, ça, c'est le groupe U2 avec Bono. Alors, je ne sais pas si vous aimez U2, si vous écoutez. Il y a un album qui s'appelle All That You Can Leave Behind. C'est pas très important, mais le chanteur écrit et chante dans l'un de leurs titres un qui s'appelle La paix sur la terre. Et j'ai traduit cela pour vous. Je ne vais pas le chanter pour vous. Jésus, ce chant que tu as écrit, les paroles sont coincées dans ma gorge. Paix sur la terre. Je l'entends chaque saison à Noël. Mais il n'y a pas d'harmonie entre cette espérance et l'histoire. Alors, que vaut-elle la paix sur la terre? C'est vrai que Jésus est né aux proclamations de la paix. Les anges l'ont dit. paix sur la terre, n'est-ce pas? Mais quel prix payera-t-il pour procurer cette paix? Dans le village de Bethléem, ça sera la mort des petits garçons. Jésus, avec les paroles « paix sur la terre » chantées à sa naissance, va mourir avec ses paroles sur ses lèvres. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il prit cela sur la croix. Et donc, ceux qui cherchent la paix sont heureux, car ils ne ferment pas l'œil à la souffrance de ce monde, mais font comme leur frère aîné Jésus, qui a tout fait pour procurer une réconciliation avec Dieu. Et eux, ils sont véritablement les enfants de Dieu. Et vous, vous êtes dans la paix avec... Est-ce que vous êtes dans la paix avec ceux qui vous entourent? Avez-vous payé le prix de cette paix, de vivre en réconciliation avec eux? L'apôtre écrit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà la situation de chaque chrétien. Il est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses sont devenues nouvelles. D'où vient un tel salut? Bon, écoutons ce qu'il dit encore. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leur faute. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc Dieu, en Christ, en train de réconcilier le monde avec lui. Bon, quel monde? Un monde qui avait rejeté Dieu. Un monde qui suivait ses propres dieux, ses propres envies, ses propres désirs, et qui aimait son péché plus qu'il aimait le Créateur de l'univers. Et donc, nous finissons avec ce passage, avec « Nous sommes donc ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez en paix avec Dieu. » C'est ça le message que nous avons. L'apôtre dit que cela se fait être réconcilié avec Dieu par Jésus. Ceci a transformé sa vie. Et maintenant, Paul accepte le ministère de réconciliation à laquelle Dieu lui avait appelé. Paul, récipient de la paix, offre la paix à d'autres. Il devient un artisan de paix. Comme Jésus avec ses disciples, vous vous souvenez ce qu'il a dit quand il les a envoyés en mission? Il dit, « Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il y trouve quelqu'un qui soit digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans sa maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. » Bon. J'aime bien cela. J'aime bien cette idée qu'ils entraient là, ils trouvaient quelqu'un de digne pour les accueillir, parce qu'ils allaient prêcher la parole. Et quand ils entraient, ils disaient que la paix de Dieu, shalom, soit sur cette maison. Et s'ils acceptent cela, cette réconciliation, sinon, ils étaient appelés à reprendre cette paix et puis d'aller plus loin, en trouver d'autres. Une des manières de vivre en paix, et d'ailleurs, quand vous venez chez nous, si vous voulez dire à haute voix que la paix est sur cette maison, cela ne me gêne ni ne gêne pas Stéphanie non plus. Une des manières à vivre en paix est d'attendre la justice de Dieu plutôt que de se faire justice soi-même. C'est de confronter, mais d'accepter. Romains chapitre 12, le verset 17, Paul répète les paroles de Jésus. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance. » C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Bon, ce sont les paroles de Jésus du sermon sur la montagne. Et malgré tout, ce qui est certain est qu'il y aura des situations dans lesquelles il sera impossible de vivre en réconciliation avec les autres. Mais que faisons-nous? Nous faisons de l'Église un lieu de paix. Si le monde va être en guerre, nous devons faire que l'Église soit un lieu de paix. Un lieu de paix. Et ça, c'est une des choses qui est assez honteuse. C'est que parfois dans nos églises, il y a des luttes, des batailles, il y a des choses qui sont dites, et ça, on doit éviter. Romains chapitre 14, 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Vous êtes en paix avec Dieu. Avez-vous répondu à son offre de paix, d'être en relation avec les autres? Avoir la paix, c'est à cela que Dieu nous appelle. 5.1, Romains 5.1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour bénédiction ce soir, j'ai choisi la fin ici. Au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous tous. Amen.